Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
Le concile de Chalcédoine. Comme nous l'avons vu précédemment, le brigandage d'Éphèse du mois d'août 449 avait poussé le pape Léon à réagir auprès de l'empereur Théodose II, surtout après la nomination d'un nouveau patriarche de Constantinople qui succédait au malheureux Flavien, mort à la suite des sévices qu'il avait subis. Le 16 juillet 450, Léon avait écrit à Théodose II pour exiger que ce nouveau patriarche, Anatole, manifeste clairement son désaccord avec l'hérésie monophysite. Mais, avant que la lettre ne parvienne à l'empereur, celui-ci mourait à la suite d'une chute de cheval. En l'absence de descendant de Théodose, c'est sa sœur Pulchérie qui prend le pouvoir. Puis, pour donner à l'Empire un souverain, elle épouse un chef militaire du nom de Marcien et le fait proclamer empereur. Dès ce moment, la situation se renverse au détriment de Tychès, qui est renvoyé de son monastère et placé sous surveillance, tandis que le patriarche Anatole se rallie à la vraie foi. De son côté, l'empereur Marcien se tourne vers le pape Léon pour lui annoncer la convocation d'un concile qui, assure-t-il, sera totalement placé sous l'autorité du Saint-Siège. Dans sa réponse à l'empereur, au début du mois de juin, saint Léon assure à son illustre correspondant qu'il se réjouit beaucoup de ce revirement de situation, mais il ajoute qu'il n'est pas favorable à l'idée d'un concile. En effet, explique-t-il, je cite, les circonstances difficiles du moment ne permettent absolument pas de rassembler les évêques de toutes les provinces, car elles sont troublées par la guerre, et ils ne peuvent pas s'absenter de leurs églises. Il demande donc à Marcien de reporter à plus tard son projet. Derrière cette demande exprimée en termes très diplomatiques, il y a aussi la crainte qu'une fois de plus les évêques d'Occident ne soient quasiment pas représentés et que lui-même, Léon, ne puisse pas faire entendre sa voix. Mais cette demande ne sera pas suivie d'effet en raison de la lenteur des communications. Quand la lettre du pape arrive à Constantinople, le concile est déjà convoqué pour le 1er septembre à Nicée. Saint Léon, informé et bien entendu invité, écrit de nouveau à l'empereur qu'il aurait préféré qu'on attende et que le concile se tienne en Italie, mais qu'il ne s'oppose pas à la décision prise sans lui. Il assure que l'essentiel pour lui, c'est la sauvegarde de la vraie foi. Et ne pouvant se déplacer en personne, il précisera à ses représentants que cette foi est celle qu'il a mise par écrit dans le tome à Flavien, cette lettre dogmatique très importante qu'on n'avait même pas voulu lire lors du brigandage d'Éphèse. Instruit par ce même brigandage, Léon prend soin d'ajouter une exigence. Il faut que la présidence du concile soit réservée aux légats qu'il a désignés pour le représenter. Ceux-ci sont au nombre de 4, accompagnés d'un notaire. En tout cela, écrit un historien, se manifeste clairement la haute conscience qu'a saint Léon de l'autorité du siège apostolique et du rôle qui lui revient de tenir au concile. Ce ne sera plus Dioscore d'Alexandrie qui présidera, mais bien, par ses représentants, le successeur du bienheureux apôtre Pierre. Sous ses auspices, le concile s'ouvre le 8 octobre 451, non pas à Nicée comme prévu, mais à Chalcédoine, une ville choisie parce qu'elle est beaucoup plus proche de Constantinople. C'est d'ailleurs de nos jours une banlieue résidentielle de la ville d'Istanbul. Les évêques présents sont nombreux, près de 500, pour la plupart orientaux. Et pour respecter la volonté du pape, on commence par exclure Dioscore de la présidence pour avoir, je cite, « osé tenir un concile sans en avoir reçu mandat du siège apostolique, ce qui ne s'est jamais fait et ne doit jamais se faire ». Après qu'il se sera soumis en quittant la présidence, on passera à l'étape suivante en faisant son procès en bonne et due forme, malgré ses protestations véhémentes. Le concile tiendra 17 sessions, dont les plus importantes pour la théologie sont les 6 premières. Après avoir confirmé la condamnation de la doctrine de Tychès et celle du brigandage d'Éphèse, on demande que le concile procède à une nouvelle définition de la foi orthodoxe. Mais on est très réticent à l'idée de composer un nouveau texte. Dans un premier temps, on se contente donc de relire le symbole de Nicée, celui de Constantinople, la lettre à Nestorius de Cyrille d'Alexandrie, dont le concile d'Éphèse a fait un texte normatif pour la foi, et enfin, le tome à Flavien du pape Léon, qui est acclamé avec enthousiasme comme expression de la vraie foi. « Voilà la foi des pères !» s'écrient les évêques. « Voilà la foi des apôtres ! Tous nous croyons ainsi ! Anathème à qui ne croit pas ainsi ! C'est Pierre qui a parlé par la bouche de Léon. Les apôtres ont enseigné ainsi. Léon a enseigné selon la piété et la vérité. Cyrille a enseigné ainsi. Éternelle mémoire de Cyrille. Léon et Cyrille ont enseigné d'eux-mêmes. » Fin de citation. La troisième session du Concile prononce la condamnation de Dioscore et sa déposition définitive, tout en réhabilitant Flavien post-mortem. Mais un problème de taille surgit avec les évêques égyptiens, qui continuent de faire bloc derrière le patriarche d'Alexandrie, alors même qu'il vient d'être déposé. Il faut se rappeler que la théologie alexandrine a toujours penché vers le monophysisme, ou comme on dit aujourd'hui, pour éviter un terme jugé trop polémique, le miaphysisme, avec la formule de Cyrille sur l'unique nature incarnée du Dieu Verbe, ou la formule de Dioscore lui-même, à partir de deux natures, qu'on pouvait interpréter dans un sens monophysite. Il faut dire aussi que ces évêques alexandrins ont très peur de se faire lyncher par la foule s'ils reviennent en Égypte en s'étant désolidarisés de Dioscore. On essaie pourtant encore, dans la quatrième session, d'échapper à la rédaction d'un nouveau texte dogmatique. Mais on constate que ce n'est plus possible, et la cinquième session va s'y atteler en affrontant la grande question : faut-il dire « en deux natures » ou bien « de deux natures » ? Formule ambiguë qu'on peut interpréter comme annulant la première. Le légat du pape, Pascasinus, soutenu par l'empereur, exige qu'on se prononce sur les deux natures et met les évêques au pied du mur en ces termes, je cite. Dioscore a dit « J'accepte la formule de deux natures, mais je n'accepte pas deux natures. » Le très saint archevêque Léon dit qu'il y a dans le Christ deux natures unies sans confusion, ni changement, ni division, en un seul Fils unique, notre Sauveur. Lequel voulez-vous suivre, le très saint Léon ou Dioscore ? Évidemment, tous les évêques se récrient « Nous croyons comme Léon, ses adversaires sont des Eutychiens, l'exposé de Néon est orthodoxe. » Dans ce cas, répondent les légats, « Ajoutez donc à la formule de foi, selon la sentence de notre très saint père Léon, qu'il y a dans le Christ deux natures unies sans changement, ni séparation, ni confusion. » La commission d'experts rédige alors la formule de foi, solennellement approuvée lors de la huitième session, le 25 octobre. Ce texte, le plus important de tous les conciles christologiques, est à la christologie ce que les définitions de Nicée et Constantinople étaient à la théologie trinitaire. Il ne manque plus désormais que de soumettre tout cela à l'empereur pour qu'il le confirme. Ce sera chose faite au cours de la sixième et dernière session, à laquelle l'empereur assistera en personne avec l'impératrice à ses côtés. La formule définitive qu'on a pris soin de faire précéder par le symbole de Nicée-Constantinople et qui évite toute référence explicite au tome à Flavien sera acceptée par les pairs à une large majorité. Il convient maintenant de nous pencher sur cette formule, inspirée à la fois par le texte de réconciliation de 433 entre Cyrille d'Alexandrie et Jean d'Antioche et par le tome à Flavien du pape Léon. Cette formule est en tout point admirable par le balancement qu'elle opère entre l'humanité et la divinité du Christ et par la synthèse qu'elle réalise ainsi entre les deux écoles théologiques d'Alexandrie et d'Antioche qui s'étaient affrontées durant la période précédente. C'est donc à tort que certains auteurs présentent cette formule comme une revanche de la christologie d'Antioche sur la christologie d'Alexandrie qui avait dominé au Concile d'Éphèse. En réalité, la théologie de Cyrille est pleinement honorée et l'unité du Christ est maintes fois soulignée. Constamment reviennent des expressions comme « le même, un seul et même Christ Fils, né du Père puis de Marie ». On ne saurait mieux dire l'unité de sujet dans le Christ. Un alexandrin n'aurait pas lieu d'être dépaysé malgré quelques passages empruntés à Léon comme l'expression « en deux natures » et la phrase « la différence des natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de chacune des natures est bien plutôt sauvegardée ». La pointe de la définition de Chalcédoine reste cependant l'affirmation de la réalité maintenue de l'humanité du Christ après l'union. Et c'est pour cette raison que l'expression « en deux natures » est préférée à celle que proposait Dioscore, « de deux natures ». Pour cela, on exprime l'humanité de Jésus par des formules aussi exactement parallèles que possible à celles qui sont déjà devenues traditionnelles pour sa divinité, de manière à poser une altérité maintenue à l'intérieur de l'unité d'un seul sujet. Nous sommes maintenant mûrs pour lire ensemble cette définition christologique de Chalcédoine, ce que nous ferons lors de notre prochaine rencontre.